Et nous sommes le jeudi 21 septembre et je vous propose d'écouter le directeur des correspondances, Olivier Chaudançon, et qui nous présente le programme de ce jour. Hier ont été inaugurées les 19e correspondances de Manosque La Poste.
Olivier Chaudançon, ça y est, le festival a démarré.
Oui, il a démarré et en ce moment se déroule même le labo de l'édition, c'est-à-dire le comité de lecture à qui on propose des manuscrits qui viennent des éditions Le Nouvel Attila, qui les lisent et puis qui donnent leur point de vue. S'ils étaient éditeurs, est-ce qu'ils publieraient ce texte ? Quel argument pour, quel argument contre ? Voilà ce qui est en train de se jouer et de se débattre sur la place d'Herbès en ce moment. Et puis, dans la journée, beaucoup de rendez-vous, certains bien repérés du public. À 14h30, les fameuses siestes acoustiques, musicales et littéraires de Bastien Lallemand, avec quelques écrivains invités du festival et les musiciens qui entourent Bastien. Et à 15h, une rencontre avec René Frény, un des auteurs les plus fidèles au festival. Et évidemment, il a moins de déplacements à faire que les autres. Il est toujours présent à nos côtés et ça nous réjouit. À 16h30, nous aurons le choix entre un jeune écrivain américain qui s'appelle Callan Wink, qui a écrit un très beau livre avec un magnifique titre. Ça s'appelle « Courir au clair de lune avec un chien volé », tout un programme. Et pour ceux qui choisiraient une alternative à cette rencontre, nous aurons toujours à 16h30 Miguel Bonnefoy en dialogue avec Thomas Gunzig. Donc deux personnages à l'imagination proliférante, Miguel Bonnefoy avec cet esprit magique hispano-américain en quelque sorte. Le livre démarre, on a un bateau de pirates qui est en train de faire naufrage, sauf qu'il fait pas naufrage en pleine mer, il fait naufrage au sommet d'une forêt équatoriale. Donc ça commence de façon extrêmement curieuse. Il y a une histoire de trésor qui se perd et puis qui va se chercher pendant tout le livre. C'est haletant et on tourne les pages jusqu'au bout. Et Thomas Gunzig, c'est dans un genre différent, un peu la même chose quand même. C'est haletant. Ça démarre là par un accident d'avion au-dessus de l'Afrique. Tous les passagers meurent sauf un bébé recueilli qui va être élevé en Afrique et sa famille d'origine, une famille belge, va remettre la main sur lui lorsqu'il aura 15 ans, va le rapatrier en Belgique, mais là il va mettre sans dessus dessous la vie de sa famille belge pour ensuite repartir en Afrique. Voilà, j'en dis pas plus, mais on passe de drôles de moments avec ces deux drôles de livres.
On peut dire quand même, Olivier, qu'il a été élevé dans un système un petit peu particulier et il fut, paraît-il, enfant soldat.
On parle
du livre de Thomas Gunzig.
Ah oui, bien sûr, mais après je voulais pas trop en dire parce qu'il faut quand même que les effets de surprise agissent au moment de la lecture. À 18h, Philippe Besson, qui vient nous parler de son personnage de roman. On en entend parler justement en ce moment. Il a écrit un livre sur le nouveau président Emmanuel Macron. Il l'a suivi en campagne et il nous donne un regard d'écrivain sur Macron. À 18h également, deux drôles de zèbres. J'ai envie de prendre cette liberté-là pour parler de Joël Baquet, son livre étonnant, La fonte des glaces. Totalement rocambolesque et en même temps très pensé puisque ça nous parle du réchauffement climatique et des défis qui se jouent aujourd'hui. Mais ça démarre sur quelqu'un qui devient complètement passionné par des pingouins empaillés qu'il a achetés dans une brocante à tel point qu'il va aménager dans son grenier une sorte de banquise et puis ensuite il veut faire mieux, il va les emmener sur la vraie banquise et il va se passer des tas de choses jusqu'à revenir dans la rade de Toulon. Mais voilà, là aussi j'en dis pas plus, vous verrez de quelle façon il arrive à glisser tous ces éléments-là dans son livre. Et puis en face et avec lui, Hervé Le Tellier, Toutes les familles heureuses, un très beau livre, un livre autobiographique, un livre drôle, mordant, assez féroce, assumé, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, démarre avec Hervé Le Tellier, personnage central de ce livre autobiographique, qui est dans une voiture. On l'amène à Manosque pour participer aux correspondances. Voilà, donc la boucle est bouclée. Il nous présente le livre qui démarrait ainsi. Et à 18h toujours, Marie Modiano, qui vient pour réunir ses deux talents, à la fois celui d'être une chanteuse, musicienne, et puis celui d'être une auteure, une écrivaine. Elle vient pour un concert littéraire et elle sera notamment accompagnée de Peter Von Poole. Et puis la soirée, Catherine Fro, qui vient pour une grande lecture, Les Lettres d'Amérique de Nathalie Sarraute, qui se mélangeront d'ailleurs à d'autres œuvres de Nathalie Sarraute. On a fait intervenir dans le montage des extraits d'enfance, magnifique livre. Et puis cette journée qui se termine en musique, comme presque à chaque fois, avec Cyril Mokayesh, à qui nous avons donné une carte blanche, musique et littérature. Faites-nous entendre les auteurs que vous aimez, les auteurs qui vous influencent, et faites-nous entendre des moments de lecture, et puis croisez ça avec vos propres chansons. Je sais notamment qu'il nous fera entendre du Pessoa, du Fernando Pessoa.
Olivier Chaudançon, donc le directeur des correspondances avec le programme de la journée, de tout ce qui se passe. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission spéciale un éditeur et un éditeur très particulier. Bonjour Pierre Mrégène.
Bonjour.
Il faut vous rapprocher un petit peu du micro s'il vous plaît. Alors vous êtes particulier dans le sens où vous avez une approche très personnelle de l'édition, vous avez une écurie, on dit ça comme ça, d'auteurs très personnels, et puis aussi, et ça n'est pas sans me déplaire, vous êtes installé à Corbières, autrement dit à 15 km de Manosque, juste à côté de nous. Vous êtes, on peut dire, un artisan de l'édition.
Ah, complètement. Mais en fait, je dirais que je suis autant typographe qu'éditeur.
Vous choisissez vos auteurs vous choisissent, comment ça se passe?
Ben, comme dans la vie, c'est-à-dire qu'on se choisit.
Oui, sauf que c'est un métier.
Les deux choisissent. Enfin, oui. Il est clair qu'un auteur va choisir d'envoyer un texte à un éditeur ou à un autre, et un éditeur va aller chercher éventuellement un auteur ou un autre, et puis après, bon, ça marche ou ça marche pas, en fonction des désirs de tout le monde, quoi.
Les livres que vous éditez à Arpoé se retrouvent dans des librairies de manière régulière?
Ah ben, ils ne vivent que dans des librairies, enfin avant de vivre chez les gens, et peut-être un peu chez moi avant, mais sinon ils vivent dans les librairies. Oui, je ne vends pas sur Internet, je ne fais pas trop de salons, de choses comme ça.
Voilà, je vais être un peu plus précis dans ma question. En termes de diffusion et de distribution, vous n'êtes pas ce qu'on appelle dans la grande diffusion et comme une grande maison d'édition, donc c'est plus confidentiel.
Oui, puisqu'en fait, je fais la diffusion, pour ainsi dire, seul. La distribution est assumée en grande partie par une petite maison de distribution, diffusion-distribution qui s'appelle Serendip. Donc c'est très artisanal aussi, comme la fabrication des livres.
Actuellement, à la librairie Le Petit Pois à Manosque, il y a une exposition de photos de Jesús del Río, qui est un photographe qui a traîné ses guêtres et ses objectifs dans votre atelier, là où vous fabriquez vos livres à Corbières, et une exposition magnifique parce qu'on voit des objets, des outils qui ne sont plus trop utilisés dans l'édition.
C'est vrai, les photos sont vraiment très très belles. J'ai pas vu l'expo encore parce que je suis arrivé hier soir, j'étais pas là ces jours-ci. Et je crois qu'il a fait surtout des détails des machines ou des caractères ou des choses comme ça.
Alors quelles sont ces machines justement?
Alors les deux machines principales avec lesquelles je fabrique les livres sont une Linotype, qui est une machine, une vieille machine qui permet de composer au plomb le texte, des longs textes. Donc d'éviter ce qu'on faisait auparavant en composant à la main lettre par lettre. Donc là, c'est une machine qui va fondre les lignes de caractères. Et puis la deuxième machine est une presse automatique Elberg, une grosse presse, disons, qui permet d'imprimer des gros tirages.
Combien de tirages maximum?
Un maximum, il n'y en a pas. C'est le maximum, c'est moi, ma résistance à transporter le papier et puis bon, à tirer ensuite. Et puis surtout, la capacité de diffusion que j'ai des livres. Mais les plus gros tirages sont de l'ordre de 1500 exemplaires.
Donc vous fabriquez vous-même vos livres, vous faites la composition, vous faites les maquettes également de vos livres. Et ce qui frappe quand on voit plusieurs de vos livres qui sont évidemment en vente au Petit Pois chez Isabelle Maloberti, on se rend compte que ce sont de véritables œuvres d'art. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas que le texte, il y a aussi tout l'enrobage du livre, c'est-à-dire la couverture, le graphisme, les dessins, etc. C'est un soin particulier que vous portez au livre.
Dans la mesure où j'ai la chance de pouvoir faire les livres moi-même, de ne pas envoyer, comme font la plupart des éditeurs, envoyer un fichier à un imprimeur qui va se trouver en France ou à l'autre bout du monde, je pense que le plaisir de manipuler des caractères, de choisir des encres, de mélanger les encres, de choisir les papiers, de faire toutes ces choses-là, c'est assez unique et je ne vais pas me priver de ce plaisir-là.
C'est un plaisir à l'ancienne aussi, quelque part.
Plus ancien que moi, oui.
Oui, ça date de 1500, combien
À peu près, 50.
L'imprimerie. Une belle invention d'ailleurs, l'imprimerie. Inutile de préciser, Pierre-Eugène, que vous êtes à côté du système actuel de distribution des livres. On l'a bien compris en vous écoutant. Et en même temps, c'est votre métier, c'est votre passion. Vous avez ça chevillé au corps et au cœur.
Ben, ça fait très longtemps que je fais que ça, et on va dire dans la journée pratiquement que ça.
Quels sont les auteurs que vous publiez ?
J'ai une grande prédilection pour la poésie russe de ce qu'on appelle la période d'argent, c'est-à-dire la période qui est grosso modo au début du siècle, entre le début du siècle et la révolution russe.
Le 20e siècle.
Le 20e siècle. Donc j'ai publié beaucoup de poésie russe de cette époque-là, dont l'intégrale à peu près de l'œuvre poétique d'Akhmatova, voilà, qui est une très très grande poète. Ou sinon, ça peut être des auteurs contemporains français, assez peu, parce que je publie assez peu de poésie contemporaine française. Et puis des gens qui travaillent sur l'image, à partir du moment où je peux traiter l'image directement en impression typographique, c'est-à-dire la gravure sur bois ou gravure sur lino, des choses comme ça.
Les mots sont des compléments de l'image ou c'est l'inverse ?
Ils vont ensemble.
Ils vont ensemble.
Enfin, pour le livre que j'évoquais tout à l'heure de Jean Zéboulon, le texte et l'image vont vraiment ensemble.
Alors Jean Zéboulon, qu'on a vu cet été à Manosque lors des rencontres journaux, et qui a écrit un livre et qui a publié donc chez vous un livre magnifique qui est un abécédaire très très curieux, avec quelques phrases de réflexion. Vous en avez quelques-unes en tête, Pierre ?
Du bestiaire, oui. On a... je crois que c'est une des dernières. Le cafard, on finit toujours par l'avoir.
Belle réflexion. Je me tourne vers nos amis musiciens siestards à côté. On va en parler peut-être tout à l'heure. Il y a une belle phrase aussi sur les éléphants.
Ouais, les éléphants, c'est bien. Les éléphants connaissent deux types de personnes, ceux qui les protègent et ceux qui prennent leur défense.
Joli, non ? Joli. Il y a David Lafort qui est à côté, qui doit se dire, tiens, c'est intéressant. Et c'est un personnage aussi, Jean Zéboulon, parce qu'effectivement, il a trouvé ses formules très particulières, le cafard, vous l'avez dit, ou les éléphants, puis il y en a d'autres, il y a la girafe, il y a plein de bestes comme ça dans son livre, qui nous questionnent, mais aussi il a réussi à trouver un éditeur qui a valorisé ces formules particulières.
En fait, on s'est rencontré avec Jean quand il m'a envoyé un manuscrit il y a très longtemps, avec lequel j'ai fait un premier livre qui s'appelle Penser pour moi-même et quelques autres, que j'ai réédité parce que la première édition était épuisée. Et au moment où on s'est rencontré donc pour faire ce livre, il m'a donné un exemplaire qui lui restait de ce bestiaire qu'il avait fait il y a très très longtemps et qui était épuisé au seuil. Et il m'a avoué que, en fait, ce qu'il avait toujours rêvé, c'est que ce livre soit publié, ces textes soient publiés avec des gravures sur bois. Et j'ai demandé à un ami avec lequel j'ai fait énormément de livres, qui s'appelle Zaven Paré, qui est un très très grand graveur, s'il était partant pour faire un bestiaire avec une centaine de bestioles. Et il a réfléchi, il m'a dit OK. Ça a pris 3 ans pour graver toutes les plaques. Et puis on a fait le livre à ce moment-là.
Et ça en fait quasiment une œuvre d'art à un prix tout à fait abordable et que l'on trouve dans les librairies, dans les bonnes librairies, on va dire, voilà. et notamment chez Isabelle. Le travail de Jesus Del Rio, vous ne l'avez pas vu, mais comment est-ce qu'il a travaillé pour faire des photos dans votre atelier ? Comment ça s'est passé ?
Il est venu, il a fait ce qu'il voulait.
Donc des photos qui... où on voit très peu la main de l'homme, mais on voit surtout les machines et les réalisations. Donc vous verrez ces photos, puisque vous ne les avez pas encore vues. Elles sont visibles chez Isabelle Maloberti, donc au Petit Pois, à Manosque. Et puis je suppose que vous allez traîner vos guêtres du côté des correspondances, voir un peu, écouter les choses qui s'y passent. Et au milieu des correspondances, il y a bien sûr la possibilité de faire des siestes. Avec nous, Bastien Lallemand et David Lafort. Bonjour à tous les deux. Merci d'être mes invités. Alors, vous savez, les siestes, elles peuvent être réparatrices, elles peuvent être crapuleuses, elles peuvent être tout ce qu'on veut, mais à Manosque, elles sont littéraires. Et si on doit des siestes littéraires à Manosque et qu'on a une certaine habitude de cet exercice très particulier, c'est grâce à Bastien Lallemand. Bastien, comment s'est né ce concept particulier?
Oh, il est né peut-être de ma passion pour les siestes, pour les vraies siestes. Je suis assez assidu sur, je fais beaucoup cet exercice. Non, il est né aussi de l'envie de faire, pour une fois, une musique, de diffuser une musique d'une manière un peu différente, et puis de réinventer une forme plus assez artisanale en dehors des sentiers des scènes amplifiées. Et puis c'était une invention comme ça tout à fait fortuite. Un jour, le regroupement d'artistes, de chanteurs, de mes amis, puis l'envie de jouer ensemble comme on faisait chez nous, et de proposer cet entre-soi devant un public, et surtout de se libérer de la pression d'un show habituel avec son rituel, ses applaudissements. Et puis voilà, tout ça mêlé à donner une première sieste acoustique, donc où des musiciens jouent de leurs chansons, s'accompagnant les uns les autres, devenant l'accompagnateur l'un après l'autre. Donc en dehors des formats de nos concerts habituels où on est entouré de nos groupes, là tout d'un coup c'est un chanteur qui va devenir le bassiste de l'autre par exemple, ou le batteur de l'autre. Donc tout ça, ça nous permet de réinventer un peu les chansons, de leur sortir du carcan habituel de nos albums, de jouer différemment. Et puis ce public endormi, voilà. Et puis je me suis rendu compte à cette première édition que c'était pour nous une liberté incroyable, quoi. Ça nous permettait de tout faire. Et puis le public fait aussi de ce moment ce qui bon lui semble. Ça peut être d'écouter ou de dormir, d'être dans le sommeil ou
il
de
doit y en avoir assez peu quand même qui dorment, parce que bon, quand on a
mais non, sur la scène, on a des champions de ronflement. Oh là, que le ronflement soit pas le signe d'un sommeil profond, mais on a tout de même des bons ronfleurs. Non, des gens se laissent avoir, piéger ou voyager tout simplement.
Il faut dire que dans la salle de spectacle, entre guillemets, il y a des coussins et on peut évidemment s'allonger. Donc forcément, Morphée plane et on risque d'y tomber, quoi. Forcément. Par contre, quand on a en face la possibilité d'avoir un Bastien Lallemand, un JP Nataf, David Lafort cette année, puis Maëva Lebert, bien sûr, avec son violoncelle. Les années passées, on a eu Albin de la Simone, on a eu Bastien Aidez-moi,
Claire Diterzy,
Camélia Jordana l'année dernière, Gilles Caplan, Babix, enfin bref, la fine fleur d'une chanson française négligée par les médias.
Confidentielle.
J'irai pas jusque-là, parce qu'il y a certains médias qui les aident et qui les soutiennent depuis des années. C'est le cas pour vous, Bastien, et pour vos chansons, et c'est le cas aussi pour celle de David, on écoutera tout à l'heure. Je trouve que c'est intéressant de vous avoir, et d'autant plus que pendant les correspondances de Manosque, vous avez aussi des auteurs qui sont invités et qui viennent se mêler de vos siestes littéraires. Comment ça se passe, la rencontre, là ?
Bon, en fait, c'est vrai que très vite, je me suis aperçu que ces siestes permettaient d'ouvrir le champ de la proposition à d'autres ailleurs, hein, de sortir de musique et puis de faire se rejoindre aussi littérature, texte, fiction, chose que j'adore, qui sont ma seconde, première, je sais pas, passion. Et du coup, d'y rencontrer des auteurs, et Manosque était tout désigné pour faire ça, grâce à Olivier Chaudançon et puis son équipe, de proposer à des auteurs de se joindre à l'exercice, voilà, et puis de venir par intermittence de chansons, dire des textes, voir quels peuvent être les renvois de l'un à l'autre. Voilà, donc depuis quelques années, 7 ans, près de 80 auteurs différents qui sont passés lors de ces siestes, non pas seulement à Manosque, mais dans d'autres lieux.
Et c'est des rencontres passionnantes. Des complicités aussi qui se créent avec les auteurs.
Alors bien sûr, il y a comme partout dans la vie, certains avec qui ce n'est qu'un début d'histoire et tout continue. Et puis il y a de nouveaux rendez-vous ailleurs, des gens comme Cohen et Alloubry, Sylvain Prudhomme, Julien Delmer, qui sont des habitués, et puis plein d'autres, Mathias Annard, voilà, des gens comme ça qui sont venus et revenus. Marie Modiano, qui sera là aujourd'hui.
Avec Eric Van Peul.
Avec Peter Van Peul.
Peter Van Peul. Donc, effectivement, ça vaut le coup. Et pour avoir assisté à une sieste littéraire sans dormir, Bastien, sans dormir, j'ai profité de la musique et des textes qui étaient lus. J'ai apprécié évidemment la présence de Peter et Marie qui étaient là. On peut dire aussi que c'est presque une galaxie qui tourne autour de Manosque, parce que tous les auteurs que vous avez cités On les a eus ici même à Manosque, on les a encore, comme Julien Delmer par exemple, à l'Izénitaire qui risque de participer.
Oui, avec qui je travaille beaucoup, Brigitte voilà. Giraud, c'est des gens que j'ai rencontrés aussi. C'est vrai que l'initiative d'Olivier Chaudançon d'inviter nos siestes acoustiques à Manosque et de faire devenir les siestes littéraires, c'était la première fois qu'on le faisait. Et c'est vrai que depuis, on a eu l'occasion de le faire dans d'autres festivals, mais il y a 7 ans de ça, ça se faisait pas tellement nulle part.
Quoi. Oui, donc, ça a bien fonctionné.
D'où un certain nombre de rencontres assez magiques.
Ouais, comme celle de David Lafort, par exemple. Bonjour David.
Bonjour.
Ravi d'avoir David Lafort en plateau, parce que ça fait des années qu'on diffuse David Lafort, comme ça faisait des années qu'on diffusait, par exemple, Babix ou Albin de la Simone, et ça fait plaisir de dire, tiens, ils viennent à Manosque, alors, à la fois pour une sieste, mais en même temps pour s'exprimer, et puis pour, je suppose, sortir vos antennes et regarder un peu tout ce qui se passe autour de vous.
Ah oui, oui, mais je vais aller voir les spectacles qu'il y a, les lectures.
Ouais.
J'aime beaucoup lire à voix haute, donc je vais écouter un peu comment les professionnels font, ou pas professionnels, puisque les auteurs sont pas forcément des fois les meilleurs lecteurs, même si c'est émouvant. Enfin, d'ailleurs, j'aimerais bien lire à voix haute un jour, que ce soit ici ou ailleurs.
Vous trouvez que les chansons que vous faites sont des fois, quelque part, des lectures à voix haute ou pas ?
En tout cas, pour chanter juste, pas dans le sens de la musique, pas faire un do qui est bien un do avec sa vibration, etc. Chanter juste, c'est-à-dire sans affectation, sans... il faut souvent se rappeler comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on dit simplement les mots, mais avec une note. Et c'est assez difficile parce qu'on attend, enfin j'ai, c'est plus simple, parce que j'ai tendance à, une fois que je suis dans le chant, à oublier que je suis en train de simplement dire des mots, et donc je suis assez régulièrement en train de me ramener à la parole, oui.
Alors il y a une différence majeure entre la musique et la parole, ou le texte et la partition, c'est qu'évidemment la partition véhicule des émotions, certes, mais la parole, elle, véhicule des significations, et c'est différent. C'est différent. Dans vos textes, vous-même...
La musique aussi, hein. La musique aussi véhicule des significations.
Je l'ai un peu provoqué, Bastien, pour qu'il réagisse là-dessus. Non, c'est bien, parce qu'effectivement, la musique est là aussi. Mais dans vos textes, vous, David, très souvent, on a l'impression que c'est très, très léger. Et puis en fait, non. Quand on va au fond des textes, quand on parle j'ai
quand
l'amour,
on prend son casque de spéléologie et qu'on se dirige vers le fond du texte, qu'est-ce qu'on découvre alors?
C'est un assassinat. Ça vous va, ça, par exemple?
Un assassinat, oui.
Oui, par exemple. Par
voilà,
exemple.
Bon, c'est flagrant. Oui, il y en a qui sont d'ailleurs qui n'ont pas l'air légères et qui ne le sont pas. Pas forcément de tout le temps des choses cachées.
Alors évidemment, c'était un clin d'œil, c'est un assassinat.
C'est une chanson.
Une des chansons de David. David, vous n'êtes pas venu ici les mains vides, vous avez apporté votre dernier album.
Oui.
Un album que vous avez encore réalisé tout seul. Comment ça se passe?
C'est la deuxième fois. Je l'ai réalisé, oui, tout seul, jusqu'au mix, parce que le mixage... Ça reste quand même une étape que je peux pas faire. Et tant mieux, d'un certain côté. Pour d'autres côtés, tant pis, parce que c'est quelqu'un qui prend le son et qui va le travailler, il y a forcément du compromis. C'est bien des fois. Bref. Et oui, donc je l'ai réalisé, je l'ai produit celui-ci. Alors que le précédent, je l'avais réalisé, mais je l'ai produit qu'en partie. Voilà.
Donc un seul musicien sur cet album encore ?
Oui, mais peut-être même encore moins, parce que là, il y a pas mal de synthés et de machines, alors que le précédent, tout était de l'audio, alors que là, il y a pas mal de... Mais quand je dis machines, c'est plutôt des sons, des samples, parce qu'il n'y a pas de programmation, enfin, je ne mets pas une boîte à rythme, tout ce qui est joué, je l'ai écrit, comme on peut dire, ouais.
On va écouter un extrait de votre album. On se retrouve tout de suite.
Les cheveux, donc extrait de l'album Les cheveux. Donc on est en plein dans les cheveux. Tes cheveux jusqu'à ce que je revienne. Laisse pousser tes cheveux jusqu'à ce que je revienne. Maintenant je marche dessus et j'attends des nouvelles. Où es-tu? Que fais-tu? Existes-tu? M'as dit laisse pousser tes cheveux jusqu'à ce que je revienne. Laisse pousser tes cheveux jusqu'à ce que je revienne. Et ça pousse, ça pousse. Ça pousse. Maintenant je marche dessus.
Très particulier de David Lafaure, les cheveux, hein, c'était comme ça.
Les cheveux,
oui.
Les cheveux sur la langue.
Les cheveux et cette dérision très particulière qu'on retrouve dans vos textes, toujours une musique, j'allais dire même parfois une musiquette, hein, quelque chose d'un peu léger, très simple, mais en même temps des scènes très particulières, comme ce jeune homme qui s'est fait pousser les cheveux et qui se fait pousser par les cheveux après. Enfin bref, très particulier. Comment vous trouvez vos idées, David?
Je sais pas, comme tout le monde, ça fait paf. Et puis,
voilà. Ça fait paf.
Ça fait paf. On est là, on fait rien, et c'est ça qu'il faut faire. On fait rien, et arriver à peut-être être dans le silence. Et puis à force, le cerveau, il a envie qu'il se passe quelque chose, je pense. Enfin, le cerveau, moi, pareil. Et voilà, tu m'as dit laisse pousser tes cheveux jusqu'à ce que je revienne. Maintenant, je marche dessus et j'attends des nouvelles. Voilà. C'est certainement le.
Et il n'y a pas eu de réponse, hein. Elle a pas répondu. Ou il a pas répondu, je sais pas.
Il faudrait que écoutes la chanson.
D'accord.
Il n'y a pas de résolution, non.
Bon. David, vous avez choisi ce monde comme Bastien Lallemand de la musique avec la barre. Passer assez haut, vous ne faites pas de tube, vous ne faites pas de prestations particulières.
Si, moi je fais plein de tubes.
Oui.
Mais
dans la salle de bain?
Non, j'ai fait plusieurs tubes, mais les grandes radios ne s'en servent pas.
Voilà, donc c'était un petit peu ma réflexion et c'est malheureux, c'est bien dommage parce que bon, on entend de sacrées saloperies sur certaines radios et qu'on pourrait entendre plutôt les chansons de David Lafort et celles de Bastien Lallemand, alors qu'on est en train de dire que souvent la chanson française se porte mal. C'est pas vrai, il y a des gens qui écrivent bien et qui font de belles chansons et il faut que les médias s'en occupent. Après, oui, des clips vidéo sur M6 ou MTV, c'est pas forcément des choses de qualité. En tout cas, moi, j'aime bien vos chansons, à tous les deux. J'aime bien aussi les chansons de Camélia Jordana, de Babix. Babix qui a fait un album magnifique il y a 2 ans avec des poésies, mais complètement à contre-courant de ce qu'on écoute habituellement. Et c'est une bonne chose. Bastien, vous êtes en train de présenter et de préparer un album vous-même ?
Ben oui, mais on écrit. Enfin, moi, je cesse jamais d'écrire, en espérant bien sûr accumuler un certain nombre de chansons qui me plaisent. Et puis un jour, on se dit ben voilà, on va en faire un recueil de chansons. Et puis ça sera une nouvelle étape de franchie. Et puis on repartira au travail juste derrière. Donc j'écris. Mon dernier album est sorti en 2015, La Maison Haute. Et donc, j'ai depuis écrit une nouvelle chanson et j'en suis à un peu plus du mi-parcours d'un nouvel album. Donc, j'espère qu'en 2019, j'aurai la joie de présenter ces nouvelles chansons.
Ben, on va suivre ça avec grand intérêt. Le fait d'avoir créé ce concept très particulier des siestes littéraires, c'est quelque chose qui ajoute un plus à votre action culturelle, personnelle ?
Ah ben, totalement, parce que déjà c'est beaucoup de rencontres avec d'autres musiciens et des auteurs, donc c'est autant d'enregistrements possibles. Le fait de jouer pour d'autres, des chansons, des musiques, de voir leur mécanique, la mécanique de leur écriture, mais c'est comme de prendre un bouquin, enfin c'est comme d'ouvrir les yeux, voilà, tout ça, c'est comme de voyager, enfin tout ça, ça concourt à nourrir sans que d'une manière complètement inconsciente ce qui donnera les chansons à venir, quoi.
Vous êtes aussi un client entre guillemets habitué des correspondances ici à Manosque.
Je m'en réjouis.
De temps en temps, ben nous aussi, hein, figurez-vous. De temps en temps, vous avez la possibilité de voir des rencontres littéraires, de voir des spectacles. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que spectateur de ce qui est proposé à Manosque ?
Bah, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a tout naturellement des spectacles qui me captivent, qui me plaisent, voilà, et puis d'autres qui m'endorment profondément, mais j'aime bien dormir, donc il y a certains que j'aime, d'autres que j'aime pas. C'est les choix des uns et des autres, mais c'est, voilà.
Donc c'est une bonne chose. David, vous êtes déjà venu à Manosque ?
Oui, je suis venu, mais pas pour les correspondances.
Oui, c'était au café provisoire.
Oui, c'est ça.
Ah, ouais. Mmh. C'était un piège, là. J'ai dit, attention, si jamais il s'en souvient pas, ça va barder.
Je ne sais plus, d'ailleurs. Il faudrait que je vois si c'est encore Sébastien qui
Non, il n'y est plus, mais on vous donnera des nouvelles. On sait où il est, Sébastien.
Et d'ailleurs, je voudrais passer un petit bonjour et faire un petit bonjour en forme de publicité, puisque je joue chez Bruno Lévy au Café Quoi, qui se trouve pas très loin. Le 30 septembre.
À Fort-Calquier, chez notre ami Bruno, Mr. Brown.
Et Mr. Brown.
Donc, pas de soucis, et puis on va le recevoir bientôt. Je crois qu'Amandine a prévu de l'interviewer. On va voir si jamais il oublie de faire la promo du spectacle de David, ça va barder. Quoi. Ça m'étonnerait. Non. Bonne correspondance à tous les deux, bien sûr. Bonne sieste littéraire, mais ne dormez pas quand même.
Entendu.
Des auteurs tout à l'heure à 15h30, à 14h30 maintenant, c'est à. Ouais. Bastien, qui est-ce
Hervé
qui...
Le Tellier.
Oui.
Ah ouais, très bien.
Très bien, Hervé Le Tellier. Et puis Marie Modiano, qui sera accompagnée de Peter Van Poel.
Tu l'as dit tout à l'heure, donc ça va être superbe. Nous a rejoint aussi Maya Michalon. Bonjour Maya.
Bonjour.
Ravi de recevoir Maya parce que j'ai une grande admiration pour le travail qu'elle fait. Elle fait un travail que je n'ose pas faire et qui est terriblement difficile. Elle fait partie des modérateurs, autrement dit des personnes qui interrogent sur la place de l'Odette-Leville, notamment. Hier soir, c'était Laura Kaziski.
Kaziski.
Kajiski, et c'était superbe, une auteure américaine, mais vous avez, vous, en ce moment, sur le grill, il y a Justine Aubert et puis une certaine Mazarine Pinjot, Alice Zaniter, que vous connaissez bien, Callan Wink, Florence Inkel, Marie-Hélène Lafont, enfin bref, un beau linge de la littérature, et vous avez ce talent extraordinaire que de pouvoir les interviewer et intéresser et captiver le public pour ces rencontres. Comment est-ce que vous procédez, Maya ?
Alors, vous voulez rentrer dans la petite cuisine
interne ? La petite cuisine, oui, ça m'intéresse.
Merci d'abord pour vos éloges, parce que j'ai beaucoup d'admiration aussi pour votre aisance au micro et la manière dont vous interviewez les gens que vous recevez ici avec beaucoup de naturel et de spontanéité. Pour ma part, c'est effectivement une activité que je développe depuis 12 ans. Les correspondances m'ont fait confiance en 2007. C'était mon premier festival. Donc, j'ai aussi un peu grandi avec les correspondances, grandi avec ce bel événement. Et au fil des rencontres, j'ai appris à peaufiner mon travail, à essayer de progresser vers l'auteur. Il y a évidemment un travail basique, incontournable de lecture. C'est une grosse partie de mon année que je consacre à la lecture. Une lecture attentive, phrase à phrase. Je suis incapable de lire en diagonale. Je suis incapable de sauter le moindre paragraphe. Donc je lis très attentivement les livres qu'on me confie, un crayon à la main, et je note beaucoup de choses pendant ma
des
lecture.
Des fiches de lecture ?
Alors, je note dans les pages de garde des livres, j'écris dans le livre, je le désacralise, je tiens à ce que ce soit un objet qui soit investi. Donc mes enfants n'ont pas le droit à eux d'écrire dans leur livre, mais moi j'ai le droit. Et du coup, je prends des notes, tout ce qui me vient à la lecture, tout le relief, c'est ce que j'appelle le relief du livre, ce qui me retient, ce qui m'interroge, ce qui me touche profondément, ce qui me pose question, ce qui m'intrigue. Voilà. Et donc je dégage en 4 ou 5 pages de garde mon relief du livre que j'ai entre les mains. Et de là, je vais ensuite essayer de soulever des questions ou des suggestions, des axes de discussion que je propose à l'auteur ensuite, tout en laissant une souplesse. Je pense que ça, c'est la partie difficile de l'exercice. C'est-à-dire qu'on peut préparer en amont un certain canevas ou un certain schéma de rencontre, et puis souvent, on se laisse surprendre par ce qui se passe en direct. Et c'est là que finalement, on rentre vraiment dans la discussion avec l'auteur. Donc, le moment que j'aime le plus, c'est quand j'arrive à me détacher un petit peu de ce que j'ai préparé pour être vraiment dans l'échange avec l'auteur.
Vous travaillez aussi sur les biographies, on l'a vu hier avec les fantômes de Laura Kaczynski, par exemple.
Oui, je peux lire. Alors, c'est assez différent. Je commence toujours par la lecture maintenant. Je me fais un peu plus confiance qu'au début. Donc, je ne lis pas d'interview des auteurs avant. Je veux confronter ma propre sensibilité au texte sans en savoir grand-chose. Et ensuite, je vais compléter par des recherches, effectivement. Donc, soit des entretiens qui ont pu être faits avec l'auteur par des confrères journalistes, soit enfin, différents articles, différents documents. Et là, je consolide ma lecture par quelques éléments. Et quand je trouve que dans l'histoire de la personne, il y a des événements, des épisodes ou des faits marquants qui peuvent éclairer son travail, ça me semble intéressant de le transmettre au public. Après, les auteurs sont pas toujours les mieux placés, et on s'en rend compte souvent, pour faire le lien entre ce qui les a construits, nourris, et ce qui ressort dans leur littérature. Évidemment, et c'est ce dont parlait Laura Kaczynski hier soir, le subconscient est tout à fait au travail, mais c'est à nous lecteurs aussi parfois de pouvoir s'amuser à faire les liens entre ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils écrivent.
Au-delà, Maya, de l'aspect professionnel, c'est-à-dire je vais être obligé de présenter un livre sur une scène particulière qui est une rue à Manosque ou une place à Manosque avec des gens qui sont très attentifs, qui sont assis et puis qui m'attendent un petit peu au tournant aussi, hein. C'est souvent le cas pour les modérateurs. Il y a quand même le plaisir de la lecture.
D'abord, c'est évident. Depuis toute petite, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours beaucoup noté des phrases d'écrivains qui me touchaient. Je retombe sur des cahiers d'enfants, d'adolescents où je prélevais quelques phrases parce que j'avais envie qu'elles m'accompagnent, j'avais envie de les retenir, j'avais envie de les écrire pour moi. Donc d'abord, un grand plaisir de lecture. Je passe des centaines d'heures dans l'année à faire ça, et ça serait compliqué de pas être dans le plaisir vu le volume et le temps que ça me prend. Et c'est, en fait, c'est une intensité de lecture qui est augmentée par la perspective de rencontrer l'auteur. Et quand je me retrouve en vacances avec quelques livres à lire, enfin, juste pour moi, finalement, ces lectures-là, souvent, sont un peu plus fades, parce que je les fais pour l'unique plaisir de lire et pas dans la tension de qu'est-ce que je vais pouvoir soumettre à l'auteur pour le faire parler de son travail. Donc je deviens un peu accro à cette à ce mode de lecture là qui est vraiment tourné vers l'interview. Mais voilà, c'est la partie que je préfère évidemment. La lecture dans mon hamac sur mon canapé. Mes enfants me disent oui, tu nous dis que tu travailles en fait, tu bouquines.
Mais difficile d'expliquer ça. Hein,
difficile d'expliquer ça, mais c'est évidemment une lecture qui est intense et qui est concentrée. Alors que j'ai appris à faire dans plein de situations différentes, que ce soit pendant les cours de judo ou en faisant la cuisine, parce que quand on a une vie de famille, il faut caser ce temps-là de lecture qui est extrêmement long et incompressible. Mais oui, bien sûr, un immense plaisir de lire.
Petite question un petit peu perverse, Maya, il faut m'excuser. Ça vous arrive de lire un livre que vous n'aimez pas et d'être obligé d'en parler de manière positive ?
Oui, bien sûr, parce qu'on a évidemment tous nos sensibilités. Donc même si j'ai ce privilège-là d'avoir à lire des ouvrages que des équipes de programmateurs ont déjà sélectionnés, donc c'est quand même des livres qui ont souvent été repérés pour leur singularité, pour leur particularité, donc c'est quand même toujours des livres qui ont certains intérêts. Ensuite, en tant que lectrice, ils vont plus ou moins me toucher, plus ou moins me convaincre. Mais j'ai appris aussi avec le temps à distinguer ces deux moments. C'est-à-dire qu'il y a la phase de lecture où on peut être plus ou moins enthousiaste et parfois effectivement un peu déçu ou un peu agacé par le livre qui ne nous touche pas. Mais ça n'empêche pas, bien souvent, que la rencontre puisse être quand même un beau moment.
Je continue dans la perversion. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des écrivains qui sont désagréables?
Vous voulez des noms, c'est ça?
Non, j'irai pas jusque-là, mais ça doit être assez pénible.
Ça, c'est pénible. Oui. C'est-à-dire que c'est bien différent de la lecture qui peut être un peu en dessous de nos attentes et de la rencontre qui peut quand même bien se passer. Effectivement, parfois, on est sur un temps de direct, on est sur scène face au public et il n'y a pas de filet. Et parfois, effectivement, ça m'est arrivé rarement, mais 3-4 fois, de tomber sur un auteur qui n'était peut-être pas en forme simplement ce jour-là, ou contrarié, et ça ne m'appartient pas, mais je suis obligée de le subir. Ou bien sûr, que mes questions ne le convainquent pas, que je n'ai pas travaillé de manière assez pertinente ou proche de lui. Ça peut arriver de passer un peu à côté de l'œuvre, et du coup, l'auteur peut en être un peu agacé. Alors, certains professionnels compensent et passent outre et font quand même le jeu, et puis d'autres font savoir qu'ils ne passent pas un moment agréable et vous le font partager. C'est pas les meilleurs souvenirs, évidemment, mais ça fait partie de l'apprentissage.
Vous êtes attentive aux réactions du public ?
Oui, bien sûr. C'est un moment que l'on fait pour le public. Si on était là sur scène pour discuter entre nous, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, j'essaye vraiment d'avoir toujours en tête le fait que notre échange est à destination des personnes qui sont présentes, qui se sont déplacées, qui se sont organisées, qui prennent de leur temps pour profiter de ce moment-là. Les retours sont toujours importants, bien sûr. Alors, quand ils sont agréables et positifs, ça fait toujours plaisir et c'est la petite récompense des heures de travail menées. Mais j'aime aussi quand les rencontres suscitent des réactions plus précises, parfois négatives, où les personnes me font part de, qu'on a peut-être passé trop de temps sur tel sujet ou la personne était en attente d'une question qui n'est pas venue. Donc ça, je prends bien sûr, ça permet d'avancer, de progresser, d'essayer de faire mieux la prochaine fois.
Et puis je suppose que vous commencez à connaître certains écrivains de manière plus personnelle que professionnelle. Par exemple, vous allez interroger Alice Zeniter prochainement. Elle a passé une résidence ici même dans le cadre des correspondances et puis elle a écrit ce magnifique livre « L'art de perdre ». Je suppose que vous allez bien la cuisiner là-dessus. Nous aussi, on va le faire de notre côté. Vous avez des relations particulières avec les écrivains au fil des ans ?
Alors, je laisse faire ça vraiment de manière très naturelle. Vivant ici, moi je vis à Volx depuis 10 ans, donc je ne suis pas du tout dans le bain parisien qui les rassemble pour la plupart. Donc vraiment, nos rencontres se font dans la durée, au fil des salons, parce que je travaille pour les correspondances, mais pour d'autres événements aussi en France, donc je me déplace à Lyon, à Paris, à Marseille ou dans d'autres événements. Donc il peut qu'on se retrouve avec certains dans d'autres lieux aussi. Je n'ai jamais rechercher particulièrement une amitié d'auteur ou une relation d'auteur, mais il se trouve qu'avec certains, effectivement, il y a une sensibilité commune où on a partagé une rencontre qui s'est particulièrement bien passée et ça laisse un souvenir fort à chacun, donc on a du plaisir à se revoir. Avec Alice Zeniter, il y a effectivement une affection particulière pour moi.
Il y en a beaucoup à Manos qui ont tissé des liens d'amitié avec Alice. Hein,
oui, bien sûr. Elle a séjourné ici. D'ailleurs, son livre L'art de perdre, qui est sublime et qui fait vraiment beaucoup de bruit en cette rentrée, et on s'en réjouit pour elle parce que que c'est amplement mérité, a en partie pris sa source sur ce territoire manosquin.
Elle va nous l'expliquer demain, je crois, sur notre antenne.
Voilà, moi je la recevrai dimanche avec grand plaisir et j'espère effectivement être à la hauteur de ce grand texte et de cette grande dame de la littérature qu'elle est.
Vous recevez aussi une autre grande dame de la littérature qui a été un secret de la République, c'est Mazarine Pinjot. Comment on appréhende ce personnage qui est la fille naturelle de François Mitterrand?
Alors, je vais l'appréhender en tant qu'auteur.
Donc vous occultez tout ça, hein?
Je ne peux pas l'occulter, personne ne peut l'occulter. 60 millions de Français connaissent Mazarine Pinjot, donc je sais évidemment son histoire, mais je tiens vraiment à l'accueillir pour la raison de sa venue. Là, c'est en tant qu'auteur de ce roman Théa, dans lequel elle parle de l'Argentine et du putsch, de ses exilés, de leurs douleurs, de leurs difficultés à trouver leur place dans cette politique qui les chasse en périphérie de leur nation. Je vais tisser un dialogue avec Justine Augier, qui sera à ses côtés, qui a écrit un sublime roman qui s'appelle De l'ardeur, sur l'avocate Razan Zaitouné, qui est chez Actes Sud. Donc mon travail là, ça va être vraiment d'imaginer des thématiques qui puissent les faire dialoguer toutes les deux. Bien sûr, il y a cette histoire à laquelle Mazarine appartient, c'est une figure de notre pays, mais je crois que mon travail là d'animatrice littéraire est vraiment de valoriser son travail d'écrivain, donc je l'aborderai comme ça.
Vous avez aussi la possibilité peut-être de pouvoir assister à d'autres rencontres animées par des confrères ou d'assister à des spectacles dans le cadre des correspondances ou à des événements particuliers, par exemple les siestes littéraires. Vous en profitez un petit peu quand même des correspondances?
Alors, assez peu, trop peu évidemment, puisque j'anime en général entre 7, 8 ou 9 rencontres par festival, donc ça demande déjà un gros travail de préparation et de concentration, et effectivement mon cerveau est assez saturé de toutes les données, des personnages, des intrigues et des questions que j'ai à soumettre au fur et à mesure, donc je picore de temps en temps une petite demi-heure par-ci par-là, j'arrive à me glisser pour écouter un confrère et me nourrir de son travail aussi. J'ai pu assister à la lecture de Lydie Vinsanier hier soir, puisque je présentais Laura Kaziski juste avant, j'avais envie de voir comment elle portait ses textes sur scène.
L'auteur a assisté également?
L'auteur était derrière moi, oui, elle était là avec ses deux éditeurs. Alors je ne l'ai pas croisée à la sortie, elle est allée signer ses livres tout de suite pour être au plus près de ses lecteurs. Le texte était en français, Laura Kaziski ne parle pas français, mais je pense que ça a été quand même pour elle une sacrée émotion. En tout cas, les deux éditeurs étaient assez impressionnés de voir que ça se passait devant 700 personnes, une salle comble. C'est un petit éditeur lillois, Page à Page, deux personnes qui portent cette petite maison, et je crois que pour eux c'était vraiment un événement que Laura Kaziski soit autant mise à l'honneur hier, donc c'était une belle journée pour eux, je crois.
Je ne vais pas parler de votre travail en dehors des correspondances, Maya, parce que vous faites un travail remarquable aussi au sein de plusieurs associations, au sein de la commune aussi à Volx, de beaucoup de choses. Vous prenez du plaisir, c'est évident, à lire et à partager vos lectures avec le public à Manosque. Aujourd'hui, le programme pour vous, c'est
une rencontre avec Callan Wink à 16h30, jeune romancier américain. Je dis romancier, il est en fait auteur d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Courir au clair de lune avec un chien volé, Dog Run Moon en anglais, qui a été traduit par Michel Lederer, c'est donc aux éditions Albin Michel. Tout jeune auteur, 32 ans, américain, il est pêcheur à la ligne, à la mouche. Voilà, dans le Montana. Et je crois que je vais commencer par l'interroger sur cette activité-là, parce que je n'y connais rien et que ça me fera plaisir de l'entendre parler de son activité. C'est un recueil de nouvelles assez marquant, avec des ambiances très très différentes d'une histoire à l'autre. Je lis assez peu de nouvelles, c'était le cas avec Laura Kaziski hier soir, et je suis toujours un peu dans l'interrogation de comment on lit un recueil de nouvelles. Est-ce qu'il ne faudrait pas se laisser du temps entre chaque histoire? Parce que chaque histoire nous imprègne, nous laisse une sensation, une émotion, et on aborde l'histoire suivante encore plein ou pleine de ces sensations-là. Et moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a une petite ombre portée sur chacune des histoires qui suit. Donc, je vais essayer d'en parler avec lui, de voir comment lui lit les nouvelles.
Et d'avoir en plus plusieurs histoires, puisque ce sont des nouvelles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le Montana, c'est en plus l'état d'origine d'un ancien résident, ici même des correspondances, c'est Yann Apéry, que vous avez connu aussi.
C'est vrai, j'ai croisé Yann il y a quelques années, c'était un moment assez fort, je l'avais interviewé avec Atik Rahimi, c'était 2 mois avant le prix Goncourt d'Atik Rahimi.
Singh et Sabor.
C'était Singh et Sabor, exactement, chez POL. C'était un très beau moment avec Yann et Atik, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marquée. Je leur avais proposé de ne pas faire l'introduction, qui est toujours un peu le moment de stress quand on commence une rencontre. On se met en route, on s'échauffe et c'est pas le moment que je préfère, l'introduction. Je leur avais dit que je rêvais depuis longtemps de commencer une rencontre au bout de la 10e minute et de pas faire l'introduction. Et ils m'ont dit on y va. Donc j'ai pas fait d'introduction. J'ai salué le public et je me suis tournée vers Yann Appéry en lui disant « Merci beaucoup Yann pour cette première réponse. Atik Rahimi, est-ce que vous voulez réagir ?» Et Atik a commencé la rencontre comme ça et leur complicité a pu vraiment se dévoiler au fil de la rencontre. C'était un joli souvenir.
Avec un écrivain afghan et un écrivain franco-américain, c'était un moment effectivement que j'ai vécu dans le public de mon côté et j'ai apprécié beaucoup cette manière. Merci Maya d'avoir été mon invité ici même.
Merci
aussi Pierre Brégène d'avoir été mon invité, d'avoir parlé de l'édition. Nos amis siestards sont déjà partis faire la sieste. Merci aussi Amandine pour la régie. Profitez bien des correspondances de Manosque, c'est jusqu'au dimanche 24, c'est ça ? Dimanche 24 septembre, et il y a plein de manifestations partout. Et je rappelle que cette émission est disponible aussi sur notre site internet fréquencemistral.com. À bientôt, merci Amandine.
Merci à vous, une bonne journée sur Fréquence Mistral.